France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les deux principales initiatives qui composent cette édition ont une envergure de taille. La première, à laquelle nous sommes sensibles, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, est la préservation d'un patrimoine forestier à gestion douce, en permettant à la forêt de se régénérer et de conserver la variété de ses essences. Le fonds de dotation Forêts en Vie s'attache à préserver les forêts vivantes en France. L'autre grande action est la partie d'un atelier d'insertion de Vitry-sur-Seine qui s'est spécialisé dans la rénovation des jouets. Rejouer, c'est son nom, prend une dimension régionale en créant une grande plateforme de collecte et de recyclage.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Nathalie Nollet, bonjour.
Bonjour Philippe.
J'ai parlé à plusieurs reprises de votre démarche parce que elle est appréciable. Aujourd'hui, où on parle des parasites, des feux de forêt, d'une surexploitation, des coupes rases, la préservation de ces puits à carbone, de ces lieux de biodiversité nécessaires qui n'interdisent pas une exploitation, mais on va dire une exploitation douce. À plusieurs reprises, donc, j'ai vanté les mérites de votre démarche, vous, technicienne forestière en formation et coordinatrice de Forêts en Vie, qui a créé un fonds de dotation dédié à la forêt en France en 2017, dans le but d'acheter des parcelles privées.
Oui, c'est exactement ça. Effectivement, le réseau Pose Alternative Forestière a constaté que la meilleure façon de pouvoir intervenir dans la gestion des forêts privées, c'était d'en devenir gestionnaire et puis de permettre surtout à des gens collectivement de s'y installer et de développer des activités qui sont ancrées dans les territoires, qui relocalisent l'économie. Et donc l'idée a été de créer ce fonds de dotation qui est une structure qui a pour mission des missions d'intérêt général. Et l'objectif de Forêts en Vie, c'est donc d'acquérir des forêts grâce aux dons de particuliers, d'entreprises, des dons qui sont défiscalisables, et de pouvoir mettre ces forêts ensuite à disposition d'associations, de collectifs qui donc œuvrent dans la gestion douce, la préservation des forêts, tout en développant des activités qui sont donc ancrées localement.
Et partout où se créent des monopoles, ça se fait évidemment aux dépens des petites entreprises. On pense aux scieries, aux bûcherons, aux techniciens de la forêt qui très souvent se retrouvent en décalage par rapport à ces grands circuits, ces grands réseaux d'exploitation forestière.
C'est ça, c'est exactement ça. Et en plus, ça a aussi entraîné une grande perte de savoir-faire qui ont disparu. Oui. Tous ces petits scieurs qui avaient effectivement, qui étaient capables de travailler tout type de bois, tous les diamètres, toutes les essences, ben petit à petit, ils ont arrêté leurs activités. Aujourd'hui, on est confronté à des grosses scieries qui travaillent des bois qui sont très standardisés. Donc, on a une perte de savoir-faire qui est très importante dans la forêt. Et donc, l'objectif vraiment pour nous, c'est de recréer des structures en circuit court et qui sont complètement adaptées aux forêts du territoire et qui sont cohérents avec ce que la forêt peut offrir et également pouvoir répondre à la demande localement.
Alors, il y a des clauses dans la proposition aux organismes, aux associations de gérer un espace forestier grâce au fonds de dotation. C'est que 25% de la surface est laissée en libre évolution.
Oui. Alors on est évidemment sur une mise à disposition qui n'est pas sans certaines clauses. Donc on a travaillé sur un bail forestier qui est avec des clauses environnementales très innovantes et dans lequel effectivement on propose de conserver un quart des forêts en libre évolution pour permettre à la forêt d'évoluer sur le temps long qui lui est propre. Mais l'objectif étant aussi de pouvoir montrer qu'on peut avoir des activités qui soient respectueuses de l'écosystème forestier, c'est aussi de permettre donc à ces associations de pouvoir développer tout type d'activités à partir du moment où elles respectent donc les clauses environnementales qui constituent ce bail.
Ouais, mais comment pouvez-vous être alerté si elles ne le respectent pas? Parce qu'il faut quasiment un comité de surveillance pour ça.
Alors l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les porteurs de projets qui seront dans ces forêts vivantes, le fonds de dotation, et puis qu'il y ait des échanges aussi de savoir-faire, de pratiques, et que au sein de Forêts en Vie, il y ait des personnes ressources localement qui puissent régulièrement rencontrer les porteurs de projets, voir comment ça évolue, qu'il y ait un bilan, et puis vraiment conserver le lien entre les porteurs de projets Forêts en Vie et les gens autour qui sont implantés localement.
Oui. Alors vous mettez en location ces parcelles aux organismes ou aux associations qui suivent la charte que vous avez édicté, c'est de 15 à 99 ans, hein, le bail. Il est de quel tarif? Est-ce qu'on peut avoir une idée précise?
Alors, on n'a pas fixé un tarif prédéfini, parce que l'idée, c'est vraiment de voir en fonction déjà de la forêt. Sachant que notre objectif, c'est pas d'avoir un bail qui soit très onéreux, parce que bien souvent, les gens qui sont porteurs de projets, il faut qu'ils démarrent leur activité, il faut qu'ils se lancent. Donc l'idée, c'est d'avoir un bail qui soit cohérent avec l'activité qu'ils ont, et que le montant soit défini en fonction de ça, en fonction de la forêt également, de ce qu'elle va coûter à Forêt en Vie, puisque l'objectif, c'est pas non plus que les forêts coûtent de l'argent au fonds de dotation. Et il sera co-construit avec les porteurs de projets en fonction de ce qui pourra être sorti comme rémunération de la forêt.
Alors on peut participer à la campagne hein, sur helloasso.com hein, depuis quelques semaines, ça continue évidemment. Et si on veut avoir des informations sur le fonds de dotation donc émanant du réseau des alternatives forestières, c'est forêtsenvie.org. Merci Nathalie.
Merci Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Au risque de me répéter, les plateformes d'information, et plus particulièrement sur les productions alimentaires locales, deviennent presque innombrables. Le marché en ligne a boosté ces initiatives qui parfois se retrouvent en concurrence entre elles. Il en va également des marques d'articles du Made in France qui pullulent sur diverses plateformes. Nous avons essayé cette saison de vous présenter celles que nous considérions les plus sérieuses, en tout cas les plus abouties. Il arrive que ces plateformes affichent une ambition plus régionale, ce qui leur octroie davantage de crédit que celles qui ont la prétention de couvrir tout l'Hexagone sans y parvenir vraiment. Je vous confie donc le lancement de « T'as tout compris », plateforme des petits et moyens producteurs de Nouvelle-Aquitaine avec la volonté de mettre en valeur les productions familiales. Il y a déjà plus de 350 références mises en ligne. Le site c'est tatoutcompris.fr. Et puis un autre conseil en Occitanie, à Toulouse. L'association Les Voix de Traverse a réalisé un travail vraiment remarquable de qualité sonore. Ça s'appelle Espace d'espèces, espèces au pluriel, soit une série documentaire sur la nature sauvage locale. La narration est parfaite et le travail de création mérite que vous tendiez une oreille à ces petits bijoux sonores. Le site c'est espacedespèces.fr. Claire Tournefier, bonjour.
Bonjour.
Je devrais dire rebonjour parce que grâce à vos courriers, nous avons des nouvelles de votre association Rejouer. Vous êtes la fondatrice en 2012, directrice du développement de cette association Atelier d'insertion socio-professionnelle sur la base de la seconde vie aux jouets. On avait parlé de ça parce qu'il y a un gâchis énorme en France. Et vous êtes basé à Vitry-sur-Seine, vos bureaux, vos ateliers sont à Vitry. Et là, vous lancez trois grands projets coopératifs territoriaux sur l'ensemble de l'Île-de-France.
Oui, tout à fait. On se lance dans ces projets de coopération territoriaux parce que qui sommes des réemployeurs de jouets, on a besoin de collaborer avec l'ensemble des parties prenantes pour arriver à cette économie circulaire du territoire et la rendre efficace avec toutes les parties prenantes. Mmh. Donc on a commencé ce travail avec en mobilisant donc des citoyens, des consommateurs, des particuliers et des professionnels, mais aussi des distributeurs de jouets spécialisés, non spécialisés, des réemployeurs comme nous de type Emmaüs et puis aussi des acteurs des déchets et du recyclage pour réfléchir ensemble à une solution articulée sur le territoire, à des coopérations, des actions qu'on pourrait mener pour que voilà, il y ait une vraie circularité de cette économie et que le jouet ait une vie beaucoup plus prolongée et qu'il n'y en ait pas qui se perdent en route. Et que voilà, ça soit efficace au niveau du territoire et que ça serve le territoire. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller envoyer nos jouets encore très loin, il s'agit de les collecter à proximité, de les réemployer un maximum, de les rénover et qu'ils soient reconsommés sur place. Ouais. Et c'est ça qu'on veut mettre en place, cette action. Donc avec des groupes de travail, on a commencé cette action-là et on est dans la phase du deuxième groupe de travail.
Ouais, alors c'est une grande plateforme régionale que vous prévoyez d'économie circulaire et solidaire. Mais concrètement, comment vous parvenez, Claire, à solliciter et à responsabiliser les producteurs ou productrices et les distributeurs ou distributrices de jouets qui, eux, font un marché et peut-être ne se soucient pas des conséquences de ce marché?
Alors, il y a la loi anti-gaspillage et économie circulaire dans laquelle s'inscrit une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs. Donc, cette nouvelle disposition réglementaire, ils en ont pris conscience maintenant et donc ils ont envie de se mettre en marche pour y répondre, c'est-à-dire contribuer à la seconde vie, contribuer au recyclage de leurs produits. On avait déjà des contacts avec eux, mais là, on sent bien qu'ils ont envie d'aller plus loin et on est très contents, mais maintenant, il faut passer à l'action, à la mise en œuvre. Il faut aussi qu'ils imaginent et qu'ils mettent les moyens financiers et opérationnels pour y arriver. Et on espère que, voilà, avec eux, on va pouvoir créer cette plateforme de collecte et de tri mutualisé, parce qu'il y a un énorme gisement sur l'Île-de-France. Hein. 15 000 tonnes pourraient être réemployées en Île-de-France. C'est un demi-cargo, en fait, de déchets de jouets par an qui seraient réemployables. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, si vous voulez, on passe à une production vraiment industrielle, locale, qui va créer des emplois pour les plus précaires. Donc, c'est en fait une relocalisation d'une production. Les fabricants, les distributeurs doivent nous considérer comme une activité de production industrielle à leur côté, parce que nous, on ne fait que prolonger la vie de leurs produits. Donc, s'ils ont des produits bien conçus, qui sont durables, qui sont de bonne qualité ou qui peuvent être recyclés, ben nous, en fait, on sera un maillon de cette filière vertueuse. Donc, l'idée, c'est quand même aussi qu'on crée des coopérations d'activités ensemble au niveau de l'échelle du territoire pour maximiser ce réemploi. Mais ce réemploi est fait par des personnes qu'il faut rémunérer pour ces actions à la juste mesure de leur travail. Et c'est là où les metteurs en marché, les distributeurs vont devoir un petit peu repenser leur façon de d'agir et de financer cette RSE, parce que on peut pas financer à la même hauteur que ce qu'on finance l'achat des produits fabriqués en Chine. C'est pas possible. Ce modèle-là n'est plus possible. Donc, il faut envisager une rétribution qui soit juste par rapport à l'action menée et à l'impact environnemental et social aussi.
Ouais. Et vous cherchez donc de nouveaux locaux, parce que là, aujourd'hui, votre centre de stockage est saturé.
Tout à fait. On est saturé, on est obligé de louer d'autres locaux pour stocker les collectes. Donc, on cherche entre 6 000 à 11 000 mètres carrés en région parisienne, plutôt sud de la région parisienne, où on pourrait installer cette plateforme pour faire cette production industrielle locale et la faire aussi avec des structures de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des acteurs du recyclage, des sociétés qui font aussi de la logistique. Parce que, en fait, voilà, c'est tout ce circuit qu'il faut construire à une plus grande échelle, et c'est ce pourquoi on travaille actuellement avec un cabinet pour nous aider à construire cette nouvelle plateforme.
L'appel est lancé et on va suivre de très près, évidemment, cette évolution de rejouer.asso.fr. Merci beaucoup, Claire.
Merci beaucoup.
Comme chaque vendredi, des remerciements à Nuro qui réalise les carnets, Joël Levert qui leur apporte du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui donnent du relief à ces carnets. Entre autres aujourd'hui, Ludovic Asselot, Nicolas Stoufflet. Le jeu des 1 000 euros, c'est la dernière aujourd'hui à Châteaudun.